Diffusion.
Le Tropical.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanotto, Yann Bordelas est également là, et Steven Elsley. Bonne arrivée la famille, bienvenue pour une libre antenne un peu spéciale, consacrée à un film événement, c'est Tirailleurs évidemment, de Mathieu Vadepied, porté par l'une des personnalités les plus influentes du moment. Il porte ce film en tant qu'acteur et il porte ce film en tant que coproducteur. Le film est sorti ce mercredi et c'est déjà un énorme succès. Avec moi pour recevoir Omar Sy, il y aura Ouara, Charlotte Gomis et Laura Mbakov. Comment allez-vous, mesdames ?
On va très bien. Très bien.
Très bien, Claudie.
Et en plus, on sait qu'on est chanceuse.
C'est-à-dire ?
Parce que tous les chroniqueurs voulaient participer à cette émission.
C'est vrai.
Et on a gagné.
C'est vrai. Vous avez vu le film mardi soir ?
Oui, exact.
Tout à fait.
Alors ?
Criant de réalité, émouvant, un bon pari.
Ouais.
J'allais dire très humain, mais je comprends mes mots. Très humain dans le sens que c'est une histoire d'homme surtout. Ça m'a touché beaucoup.
C'est une histoire d'homme.
Oui.
D'accord. On a 48 minutes 30 pour en parler.
Dis donc, toi l'invité. Ok. Claudie va te poser des questions. Ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein.
Où suis-je ? C'est la première et l'une des dernières phrases dans la narration du film. La question n'est pas que territoriale. Elle nous interroge sur notre monde, nos sociétés, nos traditions aussi, notre rapport à l'autre et notre rapport à nous-mêmes, à soi. Tirailleurs, c'est l'histoire de la Grande Guerre, celle de 14-18, une boucherie. Tirailleurs, c'est la grande histoire et c'est également le récit magnifique et tragique entre deux pères et leurs garçons. Deux traditions là encore. Bakary Diallo, sénégalais, et son fils Tierno, tous deux enrôlés de force, plongés dans l'enfer de la Première Guerre mondiale occidentale. Et puis, le général français, dirigeant les opérations, et son fils, le lieutenant Chambrault, qui, pour plaire à ce père insatisfait, qui ne le considère pas, ne reculera devant aucune action, même suicidaire, afin de prouver à ce père qu'il est un bon soldat, un bon fils. Tirailleurs est un épisode méconnu de la Der des Der. C'est comme cela que l'on appelait la guerre de 14-18. La Der des Der, la dernière guerre. On pensait que ce serait la dernière guerre. Celle de ces jeunes Africains, en tout cas, contraints et forcés de se battre sur une terre qu'ils ne connaissaient pas avant d'être renvoyés dans leur servitude coloniale. Tirailleurs, c'est aussi, et peut-être surtout, l'histoire de la condition humaine, l'amour, le respect et la dignité. Omar Sy, notre invité. Omar, merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir. Claudie, ça va ?
Bah écoute, moi ça va. Je suis à la fois soulagé, parce que je regarde un peu les chiffres, on va en parler, du film. Donc, plutôt content. Je n'étais pas inquiet au regard des quelques attaques. On va en parler dans un instant, mais enfin c'est tellement... on va en parler de façon très anecdotique. Lorsque je parle justement de cette dimension universelle, universaliste peut-être du film, est-ce ce que vous avez voulu, Mathieu et toi, Mathieu Vadepied, le réalisateur et toi ?
Bien sûr, on voulait parler d'un film, ben déjà parce que ce film nous réunit tous les deux et on est tous les deux, parle d'un endroit différent. Donc il fallait que le film qu'on porte ensemble porte le message que chacun d'entre nous avait envie de porter. Et ça passe déjà par quelque chose de réconciliation. En fait, quelque chose en fait qui nous rassemble déjà tous les deux, et on est aussi conscient qu'on fait du cinéma, et le cinéma c'est avant tout un divertissement, c'est avant tout une histoire, et effectivement les histoires au cinéma qui nous touchent sont les histoires d'hommes avec l'humanité, et c'est l'humanité qui est universelle. Donc du coup c'est pour ça que on a axé le film sur cette relation, cette filiation, le père, la relation entre le père et le fils, on l'a axé là-dessus parce que pour nous, voilà, c'est les grandes histoires de cinéma, elles passent aussi par ce genre d'histoire-là.
Ai-je raison de faire malgré tout le parallèle entre ces deux familles, ces pères et ces deux fils ?
Bien sûr, c'est une relation à miroir. Comme ça, il y a deux pères, deux fils, deux relations différentes et qui sont, on va dire, un peu croisées, opposées, face, dans les mêmes conditions, ce qui oppose, ils sont opposés par leur position dans cette guerre, mais aussi dans la culture. Quel est leur rapport à cette guerre, à la culture, à l'endroit où ils se trouvent et comment ils réagissent. Et c'est un peu diamétralement opposé finalement.
Est-ce que cette guerre à la fois détruit et construit en même temps ? On va pas raconter le film,
hein,
on va éviter. Moi j'ai pleuré, je reconnais, dès le début. Mais je t'expliquerai tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission pourquoi. En tout cas, c'est un film à tiroir, avec des portes cadenassées, fermées à double tour, que tu ouvres, que le film ouvre justement. Et puis, il y a ces polémiques stériles et indignes. Alors, certains se sont inquiétés pour toi, et moi, mais alors pas du tout. mais alors pas du tout, pourquoi ? Parce que je sais que depuis ton enfance, ton adolescence, tu connais l'odeur, tu connais les propos des plus racistes, tu sais comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il fonctionne. Tu as subi cette violence-là et je savais que celles et ceux qui sont sortis en horde dès le départ allaient se retrouver, mais bêtes, finalement. Je parlais d'indignité dans leur communication. Pourquoi ? Parce que finalement, tu appartiens, dis-moi si je suis excessif dans mon propos, tu appartiens pour moi parce que tu sais... à cette, tu es d'un corps d'élite de celles et ceux capables de combattre et de, tu sais, le geste que tu as fait sur Quotidien, ou de dire allez-y maintenant c'est trop tard. Tu es capable de combattre ça. Tu appartiens à ce corps d'élite, à ces forces spéciales. C'est-à-dire que tu peux combattre tout ça de façon très très facile. Est-ce que tu l'as vécu comme ça, ceux qui pensaient que tu pouvais être atteint?
Non, mais je suis pas atteint. Mais pour te dire, j'y pense pas. J'y pense même pas. C'est-à-dire que j'ai pas le temps, Claudie. En fait, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. J'ai la chance de porter aujourd'hui un film dont je suis très fier, qui raconte quelque chose d'important pour moi, qui raconte quelque chose d'important pour notre génération. Et si tu veux, ce qui s'est dit à côté est une tentative de faire un nuage de fumée autour de la promotion de ce film, parce que justement, c'est un autre temps. Je parle de la génération, ce film il est pour cette génération-là, et c'est un autre temps qui s'adresse à cette génération pour dire « ne racontez pas ça, nous on n'a pas le fait, on n'a pas voulu le faire ». Et en fait, c'est un peu ça qui se passe là. Et j'ai pas le temps, parce qu'en fait, ils sont dans le passé, et moi, je me tourne vers le futur, en fait, en essayant de raconter aux générations qui arrivent notre histoire, pour qu'ils puissent se construire, parce que moi, j'ai besoin de ce récit-là pour me construire. Donc, si tu veux... Je suis pas très intéressé par le passé. J'aime pas les brocantes. J'aime pas les vieux meubles. Ouais. Je suis pas intéressé par la poussière. C'est assez poussiéreux pour moi tout ça. Et si tu veux en parler, c'est déjà beaucoup trop de considération.
C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais tu as vu, moi, je suis passé très rapidement en te disant finalement, tu vois, et sans relever ce que les uns et les autres ont pu dire en tant que coproducteur. Et acteur, évidemment, tu te soucies des chiffres, est-ce que ça fonctionne ? Alors, est-ce que le coproducteur et l'acteur, est-ce que les deux, en un, sont contents de ce qui se passe ?
Oui, on est très heureux de ce démarrage. Franchement, on est en tout cas la première sortie, c'est-à-dire que on est en tête au niveau des entrées, 55 000... pour un premier jour, par les temps qui courent, c'est un succès,
mais
on peut vraiment le dire. Donc, ce n'est que le premier jour, donc on ne va pas s'emballer. On reste prudent, mais c'est déjà un bon signal. Ça veut aussi dire que notre ressenti et ce besoin de raconter ce récit-là, il est partagé. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à avoir besoin d'un récit comme ça, et c'est bien la preuve qu'on est... Qu'on est dans l'air du temps et qu'on est en accord avec ce pays malgré ce qu'on peut entendre.
Exactement. Alors, moi, je voudrais à la fois te dire encore une fois merci, parce qu'on est tellement dans notre truc que nous, cette histoire-là, on la connaît par cœur.
Bien sûr.
On la connaît. Et je me suis rendu compte, en allant sur les réseaux sociaux un petit peu partout, qu'il y a énormément de gens en France, mais en Afrique également, tu l'entendras tout à l'heure dans la libre antenne, qui ne savait pas. Tirailleurs, le film de Mathieu Vadepied avec Alassane Diong, avec également Jonas Bloqué et Omar Sy.
Incorporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français.
En position,
plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous les remplaciez.
Franchement,
merci.
Tellement d'émotions après avoir vu ce film. Tu joues Bakary Diallo, donc le père d'un jeune garçon qui lui aussi se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, dans l'enfer de la guerre. Sa seule préoccupation, c'est de protéger son fils. Il ne veut même pas chercher, Bakary, à comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre. Il est loin de tout ça, il veut juste protéger son fils.
Oui, il est loin de tout ça, mais il ne comprend même pas. C'est-à-dire qu'il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, il ne parle pas la langue, il n'a aucun repère, tout est hostile. Et puis surtout, on lui a arraché son fils parce que lui, il y va, il s'engage parce qu'il veut sortir son fils de là, mais son fils lui a été arraché. Donc, il part avec cette promesse à son épouse qu'il va ramener le petit. Donc évidemment, il est pas du tout question de re-questionner ça une fois là-bas. Et surtout, quand il voit que son fils va lui prendre goût et commencer à s'installer dans quelque chose qui va dans l'autre sens, ça devient un peu tendu. Ouais.
Laura ?
Justement, dans le film, on sent qu'il y a un lien très fort, très naturel entre Bakary et Thierno. Bon, au-delà des rôles, hein, naturellement, Thierno, on sait que c'est votre neveu, puisque c'est interprété par Alassane Diong, oui, dans la vraie vie. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait en sorte que votre choix se porte sur Alassane Diong et pas une autre personne ?
Il n'est pas pistonné, attention. Hein. Je vois votre question un petit peu, là.
Pas du tout.
Si. J'ai bien senti.
Vraiment, parce que dans le film, moi, j'ai ressenti vraiment l'instinct paternel. Et c'est au-delà du rôle. On sent que vous êtes vachement complice. Donc, ça aurait pu être un autre Thierno. Mais pourquoi est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'était cette volonté, justement de...
Non. Alors, je vous assure que ça n'a pas été du tout un paramètre. Alors, c'est sûr que ça nous a aidés à l'arrivée. Mais on cherchait quand même un jeune acteur... capable de porter ce rôle et qui parle peul, c'est pas évident. Un jeune acteur noir de cet âge-là qui parle peul et français, c'est pas évident à trouver déjà d'une part. Et ensuite, à moi, Alassane, ça fait un moment qu'il est acteur, il fait sa vie. Et effectivement, oui, c'est mon neveu, c'est le fils de ma grande sœur. Donc, je lui ai donné, on va dire, de quoi avancer dans la vie. C'est-à-dire, je l'ai mis dans les mains d'un agent plutôt sérieux. Je lui ai donné un endroit où il pouvait apprendre le métier, c'est-à-dire un coach, une coach avec qui il a commencé à travailler. Puis après, il a fait sa vie, ses castings. Il a d'ailleurs fait d'autres choses avant Tirailleurs. Et justement, je l'ai vu dans un court-métrage qui s'appelle Baltringue. Et j'étais très étonné par la façon dont il avait bougé. La façon dont il avait évolué en tant qu'acteur, il dégageait quelque chose d'assez mûr, en fait, pour être un candidat pour Thierno. Alors nous, Tirailleurs, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, on n'avait pas Thierno. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est un Thierno potentiel. Donc j'ai discuté avec lui sur deux, trois trucs. On a nos affaires personnelles, c'est-à-dire... est-ce que tu serais gêné, en fait, de jouer avec moi? Parce qu'on a notre histoire, on a notre truc, et puis il y a... la fameuse question qui va arriver de « Est-il vraiment légitime ? Est-il vraiment méritant ?» Puisqu'en fait, c'est le neveu. Est-ce que tu serais capable de faire face à ce genre de commentaires ? Parce qu'ils vont avoir lieu. Donc, lui, le rôle lui plaisait. Il me dit « Si le réalisateur veut de moi, moi, je veux faire ce film. C'est un rôle important. C'est un film important et ça peut être bon pour moi. » On s'est mis d'accord. Et on est donc parlé à Mathieu en lui disant « Voilà, j'ai mon neveu. Il parle peul. C'est un bon acteur. Rencontre-le si ça le fait. » prends-le, sinon, ouais. Pas de pression. Ça le fait. Voilà. Ça le fait. Et en plus, quand on voit le film, on se dit, ouais, ça le fait.
Ah bah ouais.
Mais
ouais.
C'est justement de ça dont il était question, parce que j'ai trouvé que les émotions étaient fortes. Donc je me suis dit, peut-être que c'était volontaire de faire ressortir ce genre d'émotions en jouant avec un proche plutôt qu'une autre personne. Voilà.
Non, non, parce que pour le coup, il faut d'abord un acteur. Et puis cette relation-là, effectivement, là, pour le coup, elle n'est pas à composer parce qu'elle est là et elle est même au-delà de ça. Il y a le supplément d'âme là-dedans. Donc c'est facile et c'est un avantage, mais ça quand même ça se crée ça à l'écran. On n'est pas obligé de faire, on n'est pas obligé de jouer avec son frère pour jouer un frère. C'est-à-dire qu'il y a ça peut se créer à l'écran ça.
La première personne qui nous a parlé de tirailleurs dans Couleur Tropicale, c'était Big Soul 224 guinéen. Il joue dans le film. À un moment, c'est lui qui, au moment où vous arrivez. Il vous renseigne, enfin tu lui poses la question où est.
Oui, bien sûr.
Et lui,
et lui, il est.
C'est un humoriste, lui, entre autres, il faut aussi du son, tout
d'accord,
ça.
D'accord.
C'est lui le premier qui nous a parlé du film.
D'accord, oui, parce que lui, il a un rôle, il revient deux fois d'ailleurs.
Il revient, exactement.
A deux scènes, il m'envoie bouler.
C'est ça, exactement.
Très méchamment.
C'est ça. Et en peul.
Et en peul, en plus.
Ouara.
Alors, on l'a vu dans l'extrait tout à l'heure. Moi, il y a deux moments qui m'ont interpellée dans le film. Et on l'a vu dans l'extrait. À un moment du film, on entend, après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. Il faut savoir, malheureusement, que ça a pris plus de 100 ans. Aujourd'hui, c'était le 15 avril 2017 qu'il y a eu l'obtention de la naturalisation des tirailleurs sénégalais. Maintenant, il y a ce deuxième moment où vous avez l'audace, oserais-je le dire, d'émettre l'hypothèse que le soldat inconnu qui est enterré sous l'Arc de Triomphe pourrait être un tirailleur sénégalais. Est-ce qu'on va créer un nouveau moment d'histoire? Est-ce qu'enfin, demain, grâce à ce film, on pourra avoir cette petite étincelle qui va nous pousser à voir un tirailleur qui rentre au Panthéon?
Inch'Allah. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Non, mais oui, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est pas de l'audace que de se poser la question et de se dire que le soldat inconnu est potentiellement un tirailleur sénégalais. Ce n'est pas de l'audace. C'est un fait réel, en fait. C'est simplement...
C'est possible.
C'est possible. Il n'y a aucune audace là-dedans. C'est juste l'histoire qui raconte ça. Je bouscule aucune porte, je tire aucune ligne, je franchis rien du tout. C'est comme ça.
Et c'est ce que j'aime, et je rebondis sur ce que disait Claudie. Ouais. Malheureusement, on est beaucoup à ne pas connaître cette histoire.
Bien sûr, mais moi
et
le
du
premier.
Coup, on ne s'est jamais posé la question.
Mais moi le premier.
J'étais comme ça.
Ouais.
Mais non.
Mais ouais, mais moi mais le premier. Ouais. Moi le premier. D'où le film. D'où le film. C'est-à-dire, j'étais tellement effaré de voir à quel point j'étais ignorant. Et je me suis dit, mais on ne peut pas être comme ça. Il faut réparer ça. Et le film, j'espère. Répare un peu les choses, mais j'espère surtout que c'est le début d'une grande liste de beaucoup, beaucoup de films, de romans, de peintures, de ce qu'on veut pour nous apporter un maximum de choses, pour nous éclairer sur les tirailleurs. Il faut encore plus de travail des historiens pour qu'on puisse en avoir de plus en plus.
Il me semble important de parler cinéma et de dire que ce film-là est un très grand film. Mathieu Vatpied, respect, et le chef Hop, enfin toutes celles et tous ceux qui ont travaillé autour de ce film-là, c'est un grand film. Les scènes de guerre, sans tomber dans le hollywoodien spectaculaire et trop, on a vraiment le sentiment, lors des moments de combat, de risquer notre vie avec vous, quoi, avec les combattants. C'était assez impressionnant. Moi, je sais que ça m'a presque gêné. J'avais presque le sentiment que j'allais me baisser, que j'allais me cacher pour éviter les... Mais vraiment, vraiment. Ben c'est la façon dont la caméra suit les protagonistes.
Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Encore une fois, effectivement, ce que je disais en début d'émission, c'est qu'on a avant tout voulu faire un film. On a avant tout voulu faire un film. Donc, il y a des parties pré-artistiques comme ça de comment on va regarder. Donc, Mathieu Vatpied, le réalisateur, anciennement chef opérateur, et Luis Artega, lui, le chef opérateur, ils ont cette façon de filmer qui est effectivement presque documentaire. C'est-à-dire que la caméra est presque un personnage qui accompagne les spectateurs. Elle subit un peu les choses. Tout comme nous, elle suit le même trajet. Louis, d'ailleurs, donc le chef opérateur et l'opérateur, du coup, étaient avec moi. On faisait les mêmes trajets et on était obligés de savoir à quel moment allait avoir lieu l'explosion, etc. Donc, effectivement, il y a un truc très immersif comme ça. Mais c'est aussi la volonté, justement, d'être près d'eux, de leur donner la parole et de faire vraiment connaissance avec ces tirailleurs qui sont très peu connus.
Ça marche. Je veux dire que ça marche.
Merci alors. Merci.
On a marché. On est content. C'est marrant que tu parles de documentaire parce que c'est vrai. Maintenant que tu le dis, on aurait presque pu même se croire dans un documentaire de guerre de Pierre Schoendoerffer. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment-là. Donc, au fait, c'est la première fois que tu viens dans Couleur Tropicale, Omar.
Moi, oui, c'est vrai.
C'est la première fois.
C'est la première fois, hein, oui.
On va te soumettre à l'entretien.
Oh non.
Ouais, c'est comme ça. La première fois que tu as vu Indigène de Rachid Bouchareb, c'était en 2006, avec Jamel Debbouze, Sabine Assiri, Roche Dizem, Samy Bouajila, Mélanie Laurent également, Bernard Blancan. Je m'arrête là pour la citation. As-tu pensé à Tirailleurs ?
Non, là, on n'y pensait pas, c'était loin de tout ça. Et puis moi, j'avais un autre rapport au cinéma à l'époque. J'étais très admiratif du travail de tous ces mecs, particulièrement de Jamel. J'étais très admiratif de ce qu'ils étaient en train de faire, de ce qu'ils étaient en train de raconter et de voir ce qui s'est passé à Cannes pour eux. J'étais très fier et admiratif. Mais Tirailleurs était loin. Tirailleurs était loin encore.
Parce que je pense à Jamel, je pense à l'équipe que vous formiez, parce que vous êtes de la même ville, de Trappes, en banlieue parisienne. Il y avait Nicolas Anelka aussi,
bien sûr,
avec vous. Et alors, dis-moi si c'est vrai, parce qu'à chaque fois, j'ai voulu te poser la question, et puis à chaque fois, j'oubliais. Est-il vrai qu'au moment où vous n'aviez rien, que vous traversiez Rambouillet ou Montfort-l'Amaurique, vous êtes dit un jour, on va se payer une maison dans cet endroit-là, à Montfort-l'Amaurie ou à Rambouillet, c'est vrai ?
Moi, je me suis dit ça, J'ai habité Méret pendant quelques années.
À Méret, donc Méret, c'est Montfort-l'Amaurie, c'est pareil.
Ouais, c'est ça.
C'est pareil.
Ouais.
Voilà. La première fois que tu as choisi d'être un artiste, c'était où et quand et comment ont réagi les parents ?
Artiste, c'est quand même un mot complexe. Donc, j'ai pas vraiment choisi d'être un artiste parce que je sais pas s'ils ennuient vraiment. Bon, c'est d'une philosophie, on fera toute une autre émission là-dessus. Mais que j'ai choisi de faire ce métier, c'était quand je suis rentré de Cannes en 1997. C'est la première fois que j'allais donc à Cannes avec Jamel. C'était l'année où j'ai passé donc mon bac. Et donc, en rentrant de ça, je me suis dit, ah, ça me plaît tout ça, j'aimerais bien le faire. Donc, j'ai un peu annoncé la couleur. Et ça s'est pas trop bien passé.
Forcément.
Ouais,
est-ce que tu as été verbalement cogné ?
Verbalement et pas que verbalement. Il y a une chaussure qui a volé.
La première fois que l'on t'a proposé, je pense à Toledano et à Nakash, que l'on t'a proposé Intouchable, quelle fut ta réaction ?
Ben, j'étais surpris et j'ai surtout voulu réparer la méprise. En fait, j'ai dit, les gars, je suis pas un acteur. Vous voulez dans votre film et tout ça, c'était pour leur court-métrage Ces ours heureux. C'était en 2000, il me semble. Et je leur ai dit, mais les gars, je suis pas acteur, en fait, vous vous trompez, etc. Et c'est là où ils m'ont répondu, non, mais t'inquiète, nous, on n'est pas réalisateur. Et là, voilà, ça nous a scellé à vie.
Et puis, c'est le film français, c'est le succès du box-office.
Ouais. Ouais.
Voilà, respect. Alors. Je sais pas, j'ai une question que je veux te poser, qu'on pose habituellement à nos invités, mais si je te pose cette question-là, tu vas y répondre, parce que tu réponds toujours, et j'ai peur que la fachosphère s'en empare. Alors, je vais pas te poser la question. Moi, avec toi, je veux pas faire de buzz, je veux juste qu'on fasse une belle promo pour le film, et qu'on donne envie aux
autres d'aller voir. Pose ta question, et je répondrai.
Non, et que tu saches qu'à RFI et France 24, tu es à la maison et chez toi. Non, je t'ai dit que je te pose pas la question. Non, je te la pose pas.
Mais pourquoi t'en parles alors ? Bon, pose-la.
La première fois que tu as ou volé ou triché à l'école.
Très tôt, tu triches à l'école. Très tôt. Bon, à tous, mais ça, c'est rien.
D'accord,
ça.
C'est rien. Bon, bah d'accord, ok, c'est bon.
Non, c'est rien.
Bon, donc, t'as répondu oui, tu t'en souviens ou pas ?
Bah, je me souviens pas vraiment. Non, je me souviens là. Mais je crois que j'étais très jeune, un petit mouton, tu sais, les petits moutons en bois que j'avais gardé de l'école. J'étais rentré chez moi avec. Mon père m'avait vu avec ce truc et il m'a dit, demain, tu vas le rendre et t'attends que tout le monde soit dans la classe pour le rendre. Genre, en gros, je te mets bien la honte. Ouais. Et donc, j'ai dû faire ça. Et en fait, j'ai dû rendre ce truc-là devant tout le monde. C'était un peu la honte et ça m'a un peu calmé sur le vol quand même.
Respect.
Oh bah ça va.
J'ai pas fait carrière. Même si je joue Lupin, j'ai pas fait carrière.
Exactement. En fait, tu ne joues pas forcément, tu n'es pas Arsène Lupin.
Non, je joue un voleur.
Exactement. La première fois que tu as eu les moyens de t'acheter une jolie voiture, Qu'as-tu choisi comme modèle?
C'était un 406 coupé.
Eh
bien. Hein? Ouais.
Ben ouais.
Ah bon?
Mais c'est, bah t'es déçu.
Non, non, on me fout. Ouais, bah ouais.
C'était pour moi.
C'est un coupé Pininfarina, Farina, donc c'est forcément une jolie voiture.
Bah oui,
c'est
non, mais c'était à l'époque pour moi, tu te rends pas compte de rouler là-dedans.
Ouais, si,
là-dedans,
si, c'est vrai, non, t'as raison.
C'était inespéré.
T'as raison.
Claudie, tu te rends même pas
non,
compte.
Non, si, c'est vrai.
Déjà, j'avais une voiture.
Oui, c'est vrai. Non, mais moi, j'étais la première belle voiture. Non, mais t'as raison.
Pour moi, c'était une belle voiture.
Tu l'avais achetée neuve ou pas?
Non, d'occasion. Donc, c'était une seconde main.
Mais c'était, ouais, donc c'est bon. Non, c'était une belle voiture.
Non, mais attention, Claudie, mais de quoi on
parle? C'était une belle voiture.
C'est une très belle voiture.
Je voudrais que tu regardes dans l'écran.
Est-ce que tu te rappelles la première fois au salon de l'auto de quand on allait au salon
d'auto
qu'on a vu la...
Fais semblant de ne pas voir.
Qu'est-ce qu'il y a?
Fais semblant de ne pas voir ce qu'il y a dans les écrans du studio 51 de RFI.
Il y a quoi? Il y a moi en photo.
C'est le numéro, c'est la photo du numéro 604. 604 Peugeot comme ta 406, tu vois.
Ouais.
De Sport Auto.
Ouais.
Et tu avais été invité pour essayer. Oui, oui, tu étais l'essayeur. Alors, sauf qu'ils ne t'ont fait conduire que des berlines, toi qui aimes les couper, le 406
ouais,
coupé.
Ouais.
Tu n'as essayé. Alors, enfin, cela dit, tu as essayé quand même l'Aston Martin rapide.
Ouais, elle
t'as essayé la Bentley Flying Spur, le Jaguar, Maserati Quattroporte, la Mercedes CLS AMG 63 et la Porsche Panamera, la vilaine Porsche.
CLS.
CLS
ouais.
C'est celle que tu préférais?
Ben, c'était la plus performante et c'était la celle qui me convenait le mieux avec mon niveau de pilotage, on va
ouais.
dire.
Ouais. T'aimes bien les 63 AMG?
On en reparle juste après l'émission. AMG, c'est du bon préparateur.
On en reparle juste après l'émission.
Ouais, j'aime bien.
La première fois que tu as dit « je t'aime ».
Je me rappelle pas de ça, ça devait être très tôt.
Non, pas aux parents.
Ah, les parents, ça compte pas?
Non, les parents, ça compte pas.
Ah bon?
Non.
Bah, et ça compte, c'est quand même la plus belle histoire d'amour, les parents.
Non.
Ah bon?
Non.
Alors, je m'en rappelle pas.
T'as souviens pas d'avoir dit que « je t'aime » à une...
Mais je le dis souvent, « je t'aime », je suis un amoureux.
Non, la première fois.
La première fois où je l'ai dit.
Ouais.
S'il demande, c'est qui c'est, hein.
Non, il sait pas.
Laisse tomber, c'est
franchement. Et la dernière... Non, je me rappelle pas. La première fois que j'ai dit je t'aime.
Ouais.
Ah, peut-être Sabrina Jones, si elle m'entend.
C'est vrai?
Sabrina Jones, qui était ma première amoureuse. J'ai peut-être dit ça, parce que je suis un amoureux, moi.
Ouais, tu lui as dit?
Je pense.
Et la dernière fois?
La dernière fois, ça doit être à ma femme.
Ouais. Hélène, si tu nous écoutes.
Je t'aime.
Voilà. Nous aussi, on adore, c'est une guerrière. Omar Sy fait sa libre antenne Génération Conscient. Dans quelques minutes, il répondra aux questions des auditeurs leaders. Tirailleurs, le film de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong et Jonas Bloquet actuellement à l'affiche en France. Tirailleurs, c'est aussi le titre d'Abdal Malik, un titre de 2019 extrait.
Tirailleur, tirailleur 1. Tirailleur, tirailleur 1. Tirailleur, tirailleur 1. Tirailleur, tirailleur 1. Si la vie est chienne, elle me ronge comme un os. Me sclérose, qui donc a dit voir la vie en rose. Tiraillé entre ici et ailleurs, par un tirailleur. Mon rap, mon art n'est pas vengeur, même si nous ne fûmes point vainqueurs. Au-delà, au-delà, la justice voit au-delà de toute appartenance. Une dernière danse à la mémoire de ceux qu'on peut en la France. Si la vie est vaine, elle me pique, héroïne. Cocaïne, comment veux-tu qu'on puisse en sortir? Peu t'en dire que le monde a changé. Si ta couleur de peau te met encore en danger. Peu t'en dire que le monde a changé. Si ta couleur de peau te met encore en danger.
Tirailleurs, Abdal Malik featuring Matteo Falcon, titre de 2019 comme je le disais auparavant. Et dans ce titre-là, Abdal nous dit « Mon art, mon rap n'est pas vengeur, même si nous ne fûmes point vainqueurs. Au-delà, la justice voit au-delà de toute appartenance. » Une dernière danse à la mémoire de ceux qui ont cru en la France. Et puis il dit un petit peu plus loin, peut-on dire que le monde a changé si ta couleur de peau te met encore en danger?
C'est un poète.
Bah oui.
Non mais il est, non mais il dit des choses, il dit des choses vrai et qui nous...
Ça nous rappelle que le passé est très présent et ce passé-là dont traite Tirailleurs, c'est un passé très présent puisqu'il nous ramène à la mémoire et à ce qu'est cette France qui a du mal à se regarder telle qu'elle est, qui se refuse à elle-même.
C'est un héritage, ouais. On est encore dans ça, mais encore une fois, moi je suis un optimiste de nature et puis surtout... comme je le dis, c'est un héritage, donc c'est quelque chose qui vient du passé. Ouais. Et le présent, il est autre. Moi, je suis sûr de ça. La preuve, c'est qu'on est là, on est en train de parler de ce film. Et il y en a d'autres qui vont se faire. Il y a un besoin aujourd'hui qui est concret et réel, très palpable, qui justement se détache de cet héritage-là et qui va vers autre chose, forcément.
On va essayer d'aller très vite maintenant parce que nos auditeurs leaders attendent. Donc, des questions plus rapides possibles et des réponses les plus courtes possibles.
Ok, d'accord, d'accord.
Les plus courtes possibles.
D'accord, d'accord. C'est pas ni oui ni non, mais c'est un oui et non.
Non.
Ok.
Laura.
Pour rebondir sur la question, c'est vrai qu'on reproche à l'État français, entre parenthèses, d'avoir oublié la mémoire des tirailleurs sénégalais, puis de manière générale africains. Mais est-ce que c'est pas aussi le rôle des États africains d'avoir ce rôle de devoir de mémoire pour déjà conscientiser sur le problème, parce que sur ce sujet-là, parce que c'est pas beaucoup de personnes qui connaissaient la guerre de 14-18 aussi, mais aussi pour être un peu pour rendre cette mémoire des tirailleurs sénégalais plus considéré envers les pays concernés comme la France notamment.
Oh, j'ai des questions courtes.
Oui.
Après, c'est moi qui vais
en partir. Mais voilà, généralement.
Non, je sais pas qui le rôle. Moi, je pense que je sais pas. Moi, j'ai l'impression que chacun fait avec ce qu'il est. Pour ma part, voilà ma réaction à ce truc-là. Je pense que c'est encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus un truc de besoin. Donc, je pense, de générationnel, en fait. C'est pas vraiment de quel côté de la France ou en Afrique. Je crois pas que c'est là que ça se situe. Moi, je pense que c'est un truc vraiment générationnel. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le film, les réactions sur le film. On voit bien que c'est des gens d'un certain âge qui réagissent et qui sont quelque part un peu soulagés et qui ont ce truc de se dire « enfin ». Je crois que c'est vraiment un truc générationnel. Je pense vraiment que c'est plutôt là que ça se joue plutôt que d'un côté ou de l'autre. Parce que pour le coup, sur la Première Guerre mondiale et sur les tirailleurs, la France et les pays africains qui ont été colonisés, ils sont au même endroit, finalement. Merci. Il s'agit de la même entité pour moi. Oui. Ils ont la même responsabilité les uns et les autres. Mais encore une fois, moi, je pense que ouais, c'est un truc de génération. C'est que nous, on en a besoin. Donc, finalement, on n'a pas le choix. Il faut raconter ces histoires-là parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça ne s'est pas fait avant parce que, visiblement, ceux qui nous ont précédés ont pu faire autrement. Et nous, c'est différent.
Ouara.
Je sais plus comment faire, du coup. Voilà.
Oui, mais oui.
Alors, c'est fou. C'est fou quand même d'être obligé de partir pour être reconnu par ses pairs. C'est-à-dire partir aux États-Unis. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que... Est-ce que pour vous, c'est plus facile de réussir quand on part aux États-Unis et de revenir pour nous, les afro-descendants?
Non, moi, j'ai le César qui m'a ouvert vraiment les portes. Donc, j'ai été reconnu par mes pairs ici d'abord. Et j'ai pris la force... d'acteur que j'ai, l'ambition d'acteur que j'ai, le goût de raconter ces histoires-là ici avec ce César concrètement dans les mains, c'est là où je me suis dit « Ah, ça y est, je suis un acteur, j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit de raconter des histoires. » Et c'est le César qui me pousse à l'extérieur en me disant « Tu peux même aller là-bas puisque t'es un acteur, il y a quoi là-bas ? Que des acteurs. » Donc finalement, non, c'est la reconnaissance, je l'ai d'abord eue ici, alors c'est gratifiant aussi de l'avoir à l'extérieur, mais je pense que je peux pas l'avoir à l'extérieur si je l'ai pas ici.
Et pourtant, j'ai remarqué que vous revenez très souvent pour défendre des projets français.
Parce que pour moi, ça se situe au même endroit. Il n'y a pas de projet français, il n'y a pas de projet américain, il y a des projets. Il y a des projets qui me touchent, il y a des projets ambitieux, il y a des projets qui me ressemblent. Pour moi, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de... Je ne les catégorise pas. Ce sont des projets qui deviennent les miens, que je m'approprie, que j'ai envie de défendre. Je ne suis pas en train de me dire, tiens, je vais faire un français, deux américains. Je ne suis vraiment pas dans cette démarche-là. Ce n'est pas comme ça que j'aborde mon travail. Pour moi, c'est un ensemble de mon travail, des histoires qui me touchent et que j'ai envie de raconter.
Non, même pas. Même pas. N'y pense même pas. N'y pense même pas. Tirailleurs, le film, extrait.
Let now. Je vais faire comme un caporal. Voilà, il s'agit de caporal. Mais j'ai dit longtemps. Il y a là un offert.
Omar, c'est le moment là que l'on vient d'entendre et de voir pour nos internautes où Tierno revient voir son père. lui dit que Chambreau, le lieutenant, lui a proposé de devenir caporal. Ben parce que l'autre caporal est mort, l'autre caporal africain est mort. Ouais. Et lui, il a envie. Alors, on se souvient, au moment de la mort d'Adama, je ne vais pas tout raconter.
Tu es en train de tout raconter.
Non, non, mais et donc, tu vois, parce que tu disais tout à l'heure qu'il a pris, tu vois qu'il est en train de prendre goût à ça. Et il dit à son père, parce qu'il le respecte quand même, tu vas juste devoir jouer le jeu, faire semblant, quoi. Et le père ne voit pas ça du même œil, forcément.
C'est sûr.
Les traditions, la hiérarchie, tout est bousculé.
Bien sûr, il y a tout qui se bouscule ici. C'est le principe aussi de la guerre, de tout mettre en ruine. Donc là, il y a justement l'éducation, la culture qui est en train de là justement d'être bombardée aussi par ce renversement de situation en donnant le pouvoir au fils et en le mettant supérieur à son père. Il y a quelque chose qui vient un peu foutre le bazar. Et donc le père voit bien que les choses sont en train de basculer. Et puis surtout, il voit bien que le fils est en train de se prêter au jeu et d'y prendre goût.
Ben, c'est ça. Omar, es-tu prêt à répondre aux questions des auditeurs leaders ?
Hors de question, je m'en vais.
Ok, c'est parti.
Cool, Tropical.
La libre antenne.
Claudio, ouais. Il y a le téléphone pour toi.
C'est
pour
Omar. 33 6 37 42 62 24.
Il y a Wara qui me dit il y a des commentaires. Bah oui, évidemment qu'il y a des commentaires. Eladji qui est au Sunugal. Eladji, bonne arrivée.
Bonsoir.
On a la photo d'Eladji. Eladji, il faut poser la question. Omar Sy est là, il écoute, il entend. C'est le moment de poser la question.
Omar Sy, Nombada.
Ça va, Alessi.
Bada et Tempere.
Moi, Lumni Jamtani.
Min Beltima, il est là, Masha'Allah, min Douan, Ayar, yes.
Amina, Jaram, t'es de Gamal Yetima.
Donc la question est, au-delà de le fait de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui fait notre fierté en général, mais la langue peul qui apparaît dans le film aussi est une fierté nationale. Donc c'est
la question.
Une fierté. La question est-ce que Omar, tu es prêt vraiment à venir nous faire découvrir ce film au cœur du Fouta. Parce que nous, ici, nous n'avons pas de cinéma, nous n'avons pas de Netflix, nous n'avons pas accès à certaines manières de pouvoir, vraiment la seule manière de pouvoir faire découvrir ce film à toute la jeunesse du Fouta, c'est de venir vraiment exposer ce film et notre association, nous, vraiment serait ravis d'accueillir ça.
Écoute, on va y penser. On va y penser.
Voilà, ça c'est la deuxième question.
Non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible.
On va y penser.
C'est quoi la deuxième ? Quelle est la deuxième ? Mais très vite, vraiment.
La deuxième, c'est en tant qu'ambassadeur porteur de voix, tu connais bien le Fouta. Des zones reculées, des zones vraiment...
Je suis ambassadeur de rien, je voudrais rectifier quand même la vérité. Je suis ambassadeur de rien. J'ai été nommé par personne, personne n'a voté pour moi et je ne fais pas de politique.
On t'a nommé ambassadeur. Donc,
la question c'est toi qui m'as nommé, pardon. Vas-y, je t'écoute.
La question sociale et solidaire
dis-moi.
Dans le Fouta.
Oui, dis-moi.
Donc, à travers l'accès à l'eau,
oui.
Ou des soins de première nécessité, je sais que vous pouvez attirer beaucoup d'associations,
oui.
De beaucoup d'ONG dans le Fouta.
Oui.
Et
il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout vers Chilan. T'es à Chilan, il y en a beaucoup des associations qui amènent de l'eau là-bas. Tu te fous de moi ou quoi ? Il y a beaucoup d'ONG par là-bas.
Eladji, c'est bon. Eladji, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour la tentative. Randy qui est à Kinshasa. Bonne arrivée, Randy. Et nous écoutons la question.
Ouais, je vous écoute. Bien connecté
depuis
Kinshasa.
Omar Sy est là. Il attend la question impatiemment.
Voilà, merci en tout cas d'être connecté à la libre antenne de l'heure tropicale. C'est une occasion que j'attendais depuis longtemps. Et vous, c'est Omar Sy, qui est parmi mes acteurs préférés.
Merci Randy.
Ok, cool. Alors Omar Sy, tirailleur, voilà, c'est intéressant en tout cas de voir un film pareil. Pour autant que dans Tirailleur, vous mettez un accent particulier sur la guerre, sur les buts qui se sont déroulés lors de la Première Guerre mondiale. Mmh. Et moi, particulièrement, en tant que Congolais, vivant à Kinshasa, je suis touché par ça, parce que ici, en RDC, nous vivons un petit peu cette sorte de bouclier à l'est du pays, tu vois, parce que, il faut le dire, depuis un certain moment, on a
agressé. Randy, oui. Tu sais que si tu ne poses pas la question, oui. Je vais passer à un autre auditeur leader.
Voilà, alors mon souci, c'est tout simplement de rappeler ton âme à pro, en fait. Parce que tu as utilisé le 7e art pour dénoncer la guerre. Alors, est-ce que dans les jours qui viennent, il y a pas moyen d'envisager des ateliers de cinéma à l'intention des jeunes Africains, bien évidemment, pour leur permettre aussi d'utiliser le 7e art comme un outil de lutte contre la guerre ou toute autre forme de conflit sur le territoire africain?
Ben, il y a deux idées là-dedans, Randy. Je pense qu'il faut, si on veut être efficace, bien discerner les choses. C'est-à-dire que le cinéma, c'est une voie, c'est une porte pour exprimer des choses, mais on ne peut pas cibler l'inspiration des gens. C'est-à-dire que leur donner les outils techniques pour pouvoir faire du cinéma et ensuite raconter ce qu'ils veulent. Mais commencer à leur donner un outil technique pour raconter quelque chose de particulier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, c'est quelque chose que je fais déjà au Sénégal. Je ne connais pas bien le Congo, je suis désolé. Et pour ça, il faudrait être un peu implanté sur place et connaître. Comment ?
Ce sera intéressant de voir la RDC prochainement autant que la queue Sénégal.
Oui, mais tu sais, il faut des gens implantés, c'est pas évident. Moi, je te dis, si je devais faire ça, ça prendrait quelques années, parce que avant de pouvoir mettre quelque chose en place comme ça, il faut pouvoir aller, comprendre et le pays et les jeunes, et ce n'est pas mon cas. Tu
exactement.
Vois.
Merci beaucoup. Pas de problème.
On peut y penser, mais ça ne va pas se faire demain.
Ça mettra 10 ans.
Ça peut mettre du temps.
Oui, ça peut mettre du temps. Merci Randy. Lily qui est à Paris.
Oui, bonjour Clédicia, bonjour Romain, bonjour à tous les auditeurs.
Et on écoute la question parce qu'on manque de temps.
Oh, d'accord. Déjà, j'aimerais dire que Omar Sy, ma sœur et moi, on vous adore. En
tant que
vous êtes vraiment une belle personne et que vous êtes vraiment une personne engagée, on apprécie beaucoup.
Merci.
On apprécie également les choix cinématographiques que vous faites, parce qu'en fait, depuis que vous avez gagné votre César, on s'attendrait à ce que vous jouiez uniquement dans des blockbusters comme X-Men ou Inferno, alors que en fait, quand on regarde votre filmographie, vous avez également joué dans des films comme Yao, Samba et aujourd'hui Tirailleurs. Du coup, notre question est la suivante. Est-ce qu'il est facile pour vous de concilier votre activité professionnelle avec vos engagements politiques ou humains? Et en d'autres termes, est-ce que vous avez déjà eu à refuser des rôles parce qu'ils ne correspondaient pas à vos valeurs d'un point de vue historique? Par exemple.
Ce n'est que ça. Je pense qu'une carrière, elle se construit que là-dessus, sur ce qu'on accepte, mais surtout ce qu'on refuse. Intouchable, j'ai tourné Intouchable en 2010. J'ai commencé à faire du cinéma en 2000. Donc, j'ai mis 10 ans à accepter un rôle principal. J'ai mis 10 ans à accepter un rôle de banlieusard, puisqu'on me proposait que ça. Mais celui que j'ai accepté avait du sens, et c'est Intouchable. Donc, il faut absolument refuser les choses quand on est quand on a des convictions. On est tous un peu comme ça, donc oui, il y a des refus. Et après, sur les engagements personnels, sont des engagements personnels, donc mon professionnel ne rentre pas en ligne de compte. Quand je m'engage, c'est mes réactions sont personnelles, et donc ma profession n'entre pas là-dedans. Ça, pour moi, c'est deux choses complètement différentes.
Merci Lily. D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis
merci.
Big up à la sista qui est fan aussi.
Ouais, oui,
j'essaie de me mettre aussi un peu dans le...
C'est vrai.
Mais je me mets aussi un peu dans le truc.
Ouais, c'est vrai.
Elle vous écoute, je lui dirai. Merci.
Ah ben voilà. Omar, je voudrais qu'on reçoive là... Alors, ce n'est pas une auditrice leader, c'est une invitée, c'est quelqu'un d'important dans cette France, justement, par ses combats pour qu'une France se regarde telle qu'elle est. C'est Aissata Seck.
Oui.
Et c'est notre sista. Aissata, bonne arrivée.
Bonsoir, salut Claudie, salut Omar, ça va?
Bah, vous passez votre temps ensemble.
Oui, on se voit beaucoup en ce moment.
Vous voyez beaucoup, vous étiez hier soir sur France 5 avec Karim Rissouli. Tu es présidente de l'association en mémoire de l'histoire des tirailleurs sénégalais. Comme pour Indigène, en 2006, il y a une actualité politique qui vient de tomber, c'est qu'enfin, les tirailleurs pourront bénéficier du minimum vieillesse. Alors, c'est très technique, tu l'as expliqué ici et là. Je voudrais juste qu'on rappelle le combat qui fut le tien, parce que c'est, on te doit cette victoire-là. Et cette victoire-là, a comment, enfin, le combat a commencé il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant.
Ouais, un peu plus de 10 ans, notamment sur la question des démarches administratives. Plein de choses, les questions de naturalisation des tirailleurs sénégalais, les questions de reconnaissance aussi avec le débarquement de Provence et de faire bouger un président de la République pour que cette cérémonie ait lieu. Et là, pour terminer, la possibilité de rentrer dans leur pays d'origine avec leur allocation minimum vieillesse. Donc pour expliquer le contexte, en fait, ça fait, ils avaient pour obligation de rester 6 mois sur le territoire français et continuer à percevoir leur allocation minimum vieillesse. Là, ils vont pouvoir rentrer dans leur pays d'origine et continuer à la percevoir. Ouais. Après, il y a encore plein de choses à régler, à
évidemment.
Gérer,
évidemment.
Notamment la portabilité des droits et qu'ils puissent se soigner directement là-bas avec leur sécu, de gérer le retour aussi, de voir comment ils vont quitter la France, si on leur permet d'avoir une ou deux chambres ici, parce qu'ils auraient peut-être envie de revenir. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à régler.
Tu viendras en parler plus longuement dans Couleur Tropicale, parce que c'est important. Tu vois, finalement, Omar, les victoires, elles se gagnent aussi. À quel point le cinéma peut porter, en tout cas aider, être de véritables boosters pour des actions sociales. Et puis moi, je voudrais te remercier parce que tu m'as donné, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais quelque part une leçon, parce que au moment de ça, lorsque ça a été publié, je t'ai dit, ouais, quand même, maintenant, il y a 22 ou une trentaine ou 40 personnes qui vont pouvoir bénéficier de cela. C'est quand même, enfin, je vais pas dire ce que l'on s'est dit, l'entre-échange en privé qu'il y a eu. Et toi, tu m'as dit, mais tu vois, c'est déjà une victoire. C'est ce pas-là, c'est déjà une belle victoire. C'est l'aboutissement d'un combat
qu'il oui.
faut prendre comme tel.
Mais bien sûr, mais surtout le combat d'Aissata, comme tu l'as dit, qui a duré des années. Nous, on a fait un film et en fait, je le rappelle, nous, on ne fait qu'un film, on ne fait que du cinéma. Quand Aissata parle, elle te parle du détail de ces hommes-là qu'elle connaît,
exactement.
Avec qui elle vit quotidiennement, elle est dans leur vie vraiment, à les aider dans toutes les démarches, etc. Elle fait ça depuis des années. Et donc, regarde, là, le détail du truc, c'est une victoire, mais il y a encore des complications. Et la guerrière que c'est dit, oui, mais c'est pas fini, on a encore des trucs à régler, c'est ça que j'aime, c'est cette fille.
Bah oui.
Mais en fait, le film, il est là, c'est peut-être juste un hasard, vraiment. En tout cas, la victoire, c'est la sienne, et j'en profite pour la saluer, vraiment.
Ouais.
Et mais, j'en profite aussi.
Alors, mais attends, je vais donner la parole à Aissata. Juste après, on va continuer quelques minutes en Facebook Live, et donc ce sera peut-être l'occasion également de se parler. Mais je voulais que Yacine de Rouen puisse nous parler.
C'est par rapport à Aissata. Oui.
Ah non, mais Aissata, non, moi, elle va rester avec nous.
D'accord.
Elle va rester avec toi. Tu restes avec moi, Aissata. Yacine, qui est à Rouen, bonne arrivée.
Merci, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Omar.
Bonsoir, Yacine.
Je suis extrêmement honoré de pouvoir échanger avec toi ce soir.
C'est gentil.
Mais je te remercie, c'est sincère. Alors, moi, je vais être assez bref. Donc, moi, j'habite Rouen. Je suis donc cette ville-là et je suis en fait responsable d'une association qui s'appelle Espoir Jeune. Et dans le cadre de mon travail, depuis maintenant plusieurs mois d'ailleurs, donc bien avant la sortie de ton film, on monte un projet autour de la thématique de l'esclavage et de la traite négrière, jusqu'à l'implication en fait des soldats sénégalais durant les conflits mondiaux.
Très vite, Yacine, il nous reste quelques instants.
Donc voilà, ce projet en fait, il concerne une trentaine de jeunes, donc issus des quartiers de Rouen. Et dans le cadre de notre projet, on devrait prochainement aller au Sénégal justement. Et moi, ma question, en fait, elle est toute simple. C'est comment on fait pour, à ton avis, selon ton expérience et le recul que tu as par rapport à tout ce que tu as entrepris jusqu'à aujourd'hui, comment on fait pour entretenir et maintenir, en fait, la mémoire, justement, auprès de notre jeunesse?
Je suis pas certain que tu aies le temps de répondre là. On va continuer en Facebook Live dans quelques instants. Tirailleurs et sur les écrans depuis le 4 janvier. Je suis désolé, mais c'est ça. On n'a pas de choix.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On n'a pas de choix. Tu vas pouvoir répondre juste après. Omar Sy était notre invité.
C'était bien. C'était même super. On se retrouve demain. Hein.